Sujet tabou dans l'Église, la Bible, le sexe et nous. Alors en voyant le titre du message de ce matin, je ne sais pas quelle est votre pensée. Parler de sexe à l'Église, quel scandale! N'est-ce pas un sujet interdit dans toutes les églises du monde? L'Église est certainement le seul lieu où l'on ne parle jamais de sexualité. C'est certainement le sujet le plus tabou dans les églises. Cette église ne fait pas exception. C'est très dommage parce que la Bible parle de sexualité. Et elle en parle beaucoup, souvent même. Pourtant, on n'en parle pas dans les églises. Pourquoi? Je crois qu'on le doit d'abord à notre culture chrétienne. Catholique en France, il faut savoir que la sexualité a été vécue pendant très longtemps comme un obstacle à la vie spirituelle. Le clergé étant soumis au célibat, la sexualité est donc devenue un sujet tabou. Un domaine dont il ne fallait surtout pas parler. Nous avons hérité de ce tabou et gardé dans notre inconscient collectif le fait qu'il ne fallait surtout jamais prononcer ce mot. On a gardé cette idée que la sexualité n'est pas bonne et qu'il ne faut pas en parler. Pourtant, la sexualité est une composante essentielle, vitale, de notre être. On ne pourrait pas vivre sans sexualité. C'est ce qui définit notre identité, la sexualité. C'est ce qui nous pousse à aller vers les autres. Ce qui nous pousse aussi à chercher des relations amoureuses. C'est le moteur de la vie humaine. La sexualité se vit de différentes manières. Elle touche, elle est concernée à chaque fois qu'il y a une notion de plaisir. Même quand je mange une simple pomme, la sexualité est touchée. Toute relation avec un autre est aussi, concerne la sexualité. Tout être humain a donc une sexualité, même s'il ne vit pas de rapport sexuel. Et la sexualité ne pourrait pas se résumer au seul rapport sexuel. Du coup, les gens qui prient « Seigneur, ôte-moi ma sexualité » ne pourront pas être vécus, ne pourront pas être exaucés. Parce que ça voudrait dire simplement « Seigneur, ôte-moi la vie ». En fait, ne pas parler de sexualité, c'est ne pas parler de soi. C'est Michel Comte qui a dit ça. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de, on parle souvent de sexualité ailleurs qu'à l'église et on en parle souvent très mal. Nous entendons parler de sexualité au travail, à la télévision, avec certains amis et même dans les cours de récréation des écoles primaires. On considère qu'en France, l'âge moyen où on entend parler de sexualité est 8 ans. Évidemment, si ce sont des enfants de 8 ans qui construisent votre idée de la sexualité, vous imaginez les ravages que cela peut faire. On parle de sexualité en lui donnant une image salie, déformée. Et l'Église est aussi responsable dans ce domaine. Aujourd'hui, si un jeune, et il y en a peut-être parmi nous, qui se pose des questions par rapport à la sexualité, il ne trouvera pas de réponse dans l'Église. Avec un peu de chance, ses parents lui en parleront, et c'est à souhaiter. Mais il va surtout en entendre parler par les copains, par la télé et par Internet. Or, la Bible parle de sexualité. Quelques exemples. Dès la création. Soyez féconds et multipliez-vous. Paraît clair. Dans l'institution du mariage. Dans l'évocation des relations charnelles des premiers hommes. Dans les perversions de Sodome et Gomorre. On parle de sexualité dans les personnalités de Jacob et d'Ésaü. L'un est robuste, préféré du père, et l'autre est efféminé, préféré de la mère. Dans la séduction de la fille de Jacob, dans la masturbation ou le coït interrompu de Onan. On en parle dans la tentation de Joseph, par la femme d'un homme qui était impuissant, eunuque, c'est la même chose. Dans les règles d'hygiène du Lévitique. On en parle dans les condamnations des perversions sexuelles et de l'immoralité. On en parle quand on parle de circoncision. On en parle dans la vie des personnages comme Samson, David, Osée. On en parle dans le Cantique des Cantiques. On en parle dans la personnalité des femmes rencontrées par Jésus, dans la parabole des noces, qui associe Christ à l'Église. La sexualité n'est donc pas un sujet tabou dans la Bible. Elle n'est pas le sujet non plus principal de la Bible, mais la Bible en parle. Et ce matin, j'aimerais vous proposer un survol de la Bible. Et j'aimerais découvrir ou redécouvrir avec vous ce que la Bible dit au sujet de la sexualité. Tout d'abord, selon la Bible, la sexualité est bonne. Selon la Bible, quel usage faire de la sexualité? Et enfin, comment vivre une sexualité épanouie en tant que chrétien, sous-entendu. La sexualité est bonne. Le couple, comme la sexualité, n'est pas né dans une vallée de souffrance, mais elle est née au paradis. Ça fait du bien de se le rappeler. La sexualité est née au paradis. Avant la chute. Lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, et la sexualité, il a dit « c'est parfaitement parfait, c'est très bon ». Je voudrais donc dire à tous, et aux jeunes en particulier, qu'il ne faut pas avoir peur ou croire que la sexualité est quelque chose de néfaste, de dangereux. Elle a été créée par Dieu. Elle est bonne. Ce n'est pas une conséquence du péché. Si on considère l'acte sexuel, la Bible valorise également. Elle ne dit nulle part que l'acte sexuel en lui-même est un péché. Pour Dieu, l'acte sexuel n'est pas un mal nécessaire pour faire des enfants. Dieu a créé la sexualité pour notre plaisir, et en particulier pour le plaisir du couple, évidemment. Là encore, dans notre culture chrétienne, nous avons hérité d'un bagage qui nous fait croire que dès qu'on a du plaisir, c'est Satan qui nous tente. Or, Dieu veut que nous ayons du plaisir. Dans le Cantique des Cantiques, nous y lisons le plaisir d'un homme et d'une femme dans le cadre d'un couple et du plaisir qu'ils rencontrent au travers de la relation sexuelle. Cantique des Cantiques 4, verset 9, et on va lire jusqu'au chapitre 5, verset 4. Tu me ravis le cœur, ô mariée, ma sœur. Alors, ce n'est pas sa sœur physique, hein, pour dire sa meilleure amie. Tu me ravis le cœur, ô mariée, ma sœur. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par une seule maille de tes colliers. Que de beauté dans tes caresses, ô mariée, ma sœur. Combien tes caresses valent mieux que le vin et la senteur de tes parfums que toutes les essences odoriférantes. Tes lèvres distillent le miel, ô mariée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es un jardin clos, ô mariée, ma sœur, une fontaine close, une source scellée. Tes pousses sont un verger de grenadiers aux fruits exquis, avec du henné et du nard et du safran, du roseau et du cinnamome, avec tous les arbres à encens, de la myrrhe et de l'aloé, avec tous les meilleures essences odoriférantes. C'est une source de jardin, c'est un puits d'eau vive, ce sont des ruissellements du Liban. Éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin, et que ruissellent ces essences odoriférantes. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits exquis. J'entre dans mon jardin, ô mariée, ma sœur. Je recueille ma myrrhe avec mes essences odoriférantes. Je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de caresses. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, des gouttelettes de la nuit. J'ai quitté ma tunique. Comment la remettrai-je? Je me suis lavé les pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. C'est très imagé, très poétique. Mais on parle de sexe. Excusez-moi, hein, d'être cru. Mais pas d'un sexe sale. On parle de la sexualité d'un couple, d'une belle sexualité. On parle de quelque chose de beau. Quelque chose où l'un et l'autre trouvent du plaisir. Vous voyez que ce n'est pas un sujet tabou dans la Bible. Le livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse, va dans le même sens et parle du plaisir du couple. Proverbes 5, versets 18 et 19. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Vous voyez bien qu'il y a une notion de plaisir. Ce n'est pas quelque chose de tabou, ce n'est pas quelque chose de mauvais. La Bible encourage même les chrétiens à avoir des relations sexuelles dans le cadre du couple. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez pas l'un de l'autre, parce que c'est bon. » Pour permettre l'épanouissement du couple dans l'Ancien Testament, le jeune marié était même exempté d'armée pendant un an, pour pouvoir faire le plaisir de sa femme. Deutéronome 24, verset 5. Le plaisir n'est donc pas un péché. Ce qui veut dire aussi que tout ce qui concerne l'ablation du clitoris ou l'infibulation, c'est-à-dire on coud les petites lèvres de la dame, ce ne sont pas des pratiques qui sont dans la Bible. Elles sont même condamnées dans la Bible. La Bible encourage l'homme et la femme à trouver leur plaisir en Dieu, d'abord, bien sûr, mais aussi à trouver le plaisir dans le cadre du couple. L'acte sexuel est donc bon et voulu par Dieu. En fait, en général, on tombe dans deux extrêmes. Il y a la dérive moraliste, qui consiste à dire que la sexualité c'est malsain, que le plaisir c'est un péché, et du coup, en absence de règles strictes dans la Bible, on va en inventer. On va en inventer tellement pour cadrer, pour juguler, et puis finalement pour détruire complètement la sexualité des uns et des autres. De l'autre côté, on a la dérive libérale. La sexualité, c'est que positif. C'est le plaisir qui est une fin en soi, justifie tous les moyens. Et alors, il n'y a plus de perversion. On fait ce qu'on veut. Absolument tout. Toute pratique qui permet d'arriver au plaisir serait alors tolérée. Ce n'est pas juste non plus. Ce sont les deux extrêmes à éviter. Et les couples doivent bien naviguer entre ces deux extrêmes. Et on va le voir un petit peu tout à l'heure. Comment vivre entre ces deux extrêmes. Une des choses essentielles à comprendre, c'est que pour pouvoir vivre une sexualité épanouie, il faut qu'il y ait un cadre qui protège. Le plaisir ne peut pas exister s'il n'y a pas de protection installée. Sinon, le cerveau va fonctionner pour se mettre en protection plutôt que de prendre du plaisir, en particulier chez les femmes. Il y a un des grands théoriciens du développement humain, qui s'appelle Maslow, qui a créer une pyramide. Vous avez les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de s'accomplir. Sans sécurité, il ne peut pas y avoir tout le reste. Or, la relation sexuelle se trouve dans tous les autres cases au-dessus. Le besoin d'appartenance, à l'autre, je me donne entièrement à l'autre. Le besoin d'estime de moi, ben oui, il y a du plaisir, donc ça nourrit mon estime de moi. Le besoin de s'accomplir, là aussi. Sans sécurité, le rapport sexuel ne peut pas être satisfaisant. Il a été mesuré statistiquement que l'âge du premier rapport sexuel chez les Français est de 17,6 ans pour les femmes et de 17,2 ans pour les hommes. Vous imaginez bien qu'à 17 ans, les questions de sécurité, de protection de soi ne sont pas en place. Et vous avez là une des grandes explications du pourquoi les Français vont mal ensuite. Et pourquoi aujourd'hui en France, nous sommes les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Ça fait partie des raisons. Pour protéger les humains, Dieu a conçu un cadre pour préserver la sécurité de chacun et permettre que le plaisir s'exprime dans la sexualité. La sexualité que Dieu a créée pour les humains, elle est tournée vers un humain et non un animal ou un mort ou un objet. Ça existe. La Bible en parle très clairement. Dans le Lévitique, vous trouverez des lois qui concernent ces pratiques-là. La sexualité que Dieu a créée est tournée vers un humain consentant. Pas de rapport de force, pas de violence, pas de pédophilie. C'est clair. Et avec un humain de l'autre sexe. Tout ça dans le cadre d'une alliance qui est celle du mariage. Au travers de la Bible, nous lisons donc que Dieu condamne les relations sexuelles en dehors de ce cadre. Ça concerne la zoophilie, aimer les animaux, la pédophilie, les enfants, les viols, les relations sexuelles avec domination du mari sur sa femme, c'est aussi condamné, l'homosexualité, et finalement toutes les pratiques qui ne respectent pas chacun dans son identité sexuelle. En dehors du mariage, s'il y avait rapport sexuel, eh bien cet acte eh bien engageait forcément les deux personnes dans un mariage pour qu'ils soient ensuite protégés. Parce que ce qui est en jeu, c'est la sécurité, la protection. Alors, dans toutes ces pratiques que j'ai données à l'instant, il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se regarder soi-même. Et en même temps, il faut que notre enseignement soit clair sur ces sujets. La relation sexuelle nécessite donc une protection affective. La Bible, Dieu donne le cadre du couple engagé, marié, autrement dit. La Bible ne dit jamais au travers d'un verset que l'on ne peut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Vous pouvez chercher dans la Bible, vous ne trouverez pas un verset qui dit ça. Mais quand on reprend la définition de la sécurité, ça paraît très clair. Pourquoi est-ce que je vais me livrer totalement à quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec moi, qui ne veut pas me protéger? Ça n'a pas de sens. Notre corps et notre sexualité sont nos biens les plus précieux. Pourquoi me livrer totalement à quelqu'un qui ne veut pas me garantir ma sécurité affective? Contracter une alliance, se marier, permet donc aux deux membres du couple de s'engager l'un avec l'autre, de se protéger mutuellement. Pour les jeunes particulièrement, j'aimerais vous dire qu'il ne sert à rien de coucher avec quelqu'un pour essayer. C'est un refrain qu'on entend dans les collèges, dans les lycées. Il faut d'abord essayer pour voir si ça marche. La relation sexuelle est d'abord une relation où on apprend à connaître l'autre, où on apprend avec l'autre à vivre une sexualité bonne et épanouissante. Essayer à gauche et à droite n'apportera rien, si ce n'est de vous désécuriser jusqu'à vous détruire totalement. Parce que ce qui est en jeu, c'est la sécurité. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il donna un principe de vie qui protège. Genèse 2, verset 24. Je vous invite à prendre ce texte. Genèse 2, verset 24. Un texte qu'on lit beaucoup par rapport au mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne deviendront qu'une seule chair. Quitter, devenir indépendant, se construire soi-même, autrement dit. Et vous remarquez qu'il ne s'agit pas juste de quitter ses parents, quitter son père, quitter sa mère. Couper. Il faut être indépendant. Il y a une nécessité pour qu'on puisse s'épanouir de prendre son envol à un moment donné. Ça veut dire aussi pour les parents, laisser partir. Pas toujours facile. S'attacher à sa femme ou à son mari. Ici, c'est l'idée qu'on construit un couple. Ça prend du temps. On apprend à se connaître. On se respecte. Et on se protège mutuellement au travers d'une alliance, un mariage. Ils deviendront ensuite une seule chair. Paraît clair. C'est à ce moment-là que le rapport sexuel a lieu. Ça parle aussi d'une nouvelle cellule familiale qui se met en place. Les deux vont ensemble. Faire dans l'autre sens peut poser de graves soucis. Corinne, une amie que je ne juge pas du tout, que j'ai accompagnée, Corinne, une amie, a eu un rapport sexuel à 17 ans. Malheureusement pour elle, elle est tombée enceinte. Ça aurait pu arriver à beaucoup de mes amis, en réalité. C'est tombé sur elle. Le problème, c'est que Corinne s'est retrouvée avec des questions qu'elle ne se serait pas posées autrement. Est-ce que je dois garder le bébé? Est-ce que je continue à faire mes études ou est-ce que j'arrête mes études? Qu'est-ce que je vais faire professionnellement? Finalement, son copain est parti et l'a laissée toute seule face à sa décision à prendre. Et là, on voit bien que le cadre de sécurité, ben, il n'y avait plus rien. C'est beaucoup plus difficile de vivre les choses dans ce sens. Et je crois qu'il est bon de réaliser que les conseils de Dieu ne sont pas là pour nous embêter, mais pour nous protéger. Dans le cadre d'un couple marié, lorsqu'on se sait aimer, on peut se donner entièrement à l'autre. Et alors, comme dans le Cantique des Cantiques, on peut vivre du plaisir. Alors j'aimerais maintenant m'arrêter sur l'usage de la sexualité. On a vu que la sexualité est bonne, mais on peut faire différents usages de cette sexualité qui est bonne au départ. La Bible donne différents exemples. Dans le chapitre 4 de la Genèse, il est question de relations sexuelles entre Adam et Ève. Ensuite, on sait que Caïn a eu des relations sexuelles avec sa femme. Tout l'Ancien Testament est rythmé au rythme de ces relations sexuelles. Quand vous avez « il connu », ça veut dire ça. « Il connu » intimement, sous-entendu. La sexualité est normale. Les relations sexuelles sont normales dans la vie des humains. La Bible ne dit pas juste qu'un tel et un tel eurent un enfant. Elle dit « ils se connurent et eurent un enfant ». Pas de tabou, c'est pas un problème. On trouve alors de belles histoires d'amour, Isaac et Rebecca, Ruth et Boaz. Il existe aussi d'autres histoires d'amour un peu plus compliquées, David et Bathsheba. Samson et Dalila. Et la Bible nous amène à chaque fois dans l'intimité du couple. Mais dans la Bible, si on trouve des belles histoires d'amour, on trouve aussi des histoires et des passages qui parlent de relations sexuelles qui ne sont pas bonnes. Il y a des histoires d'inceste, d'un frère avec sa sœur. Il y a des personnes qui se prostituent. Il est question d'homosexualité. Il est question de viol, et même de viol collectif, qui sont décrits de façon brutale. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous un de ces textes brutals. Ce n'est pas des textes qu'on lit en général à l'église. Mais j'aimerais vous montrer que la Bible ne mâche pas ses mots. Prenez Juges 19, versets 20 à 28. Quand j'ai lu ce texte à Anne, elle m'a dit « Mais ça, ça ne fait pas partie de la Bible, c'est pas possible. » Si, si. La Bible parle très clairement et crûment de certaines choses. Pour montrer que justement, de la sexualité qui est bonne, on peut en faire un bon usage ou un mauvais usage. Juges 19, versets 20 à 28. Oreilles sensibles, s'abstenir. Il y a donc un homme qui arrive dans un village avec sa femme. Le vieillard l'accueille donc et dit alors, « La paix soit avec toi, sois le bienvenu. Laisse-moi pourvoir à tous tes besoins, tu ne vas pas passer la nuit sur place, sur la place. » Il le fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis mangèrent et burent. Pendant qu'ils se donnaient du bon temps, des hommes de la ville, une bande de vauriens, encercla la maison. Ils frappaient violemment à la porte et criaient au vieillard, propriétaire de la maison. « Fais sortir l'homme que tu as reçu de chez toi, pour que nous en jouissions !» On dit qu'on couche avec lui. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit « Non, non, mes amis, ne commettez pas de mal, je vous prie. Puisque cet homme est l'hôte de ma maison, ne faites pas une chose si infâme. Écoutez, j'ai une fille qui est encore vierge. L'homme a une épouse de second rang avec lui. Je vous les amènerai, vous pourrez en disposer et les traiter comme vous jugerez bon. Mais ne commettez pas une action si infâme envers cet homme. » Mais ces hommes ne voulurent rien entendre. Alors le Lévite prit son épouse et la fit sortir vers eux. Ils la violèrent et abusèrent d'elle toute la nuit, jusqu'au matin, ne l'abandonnant jusqu'au lever du jour. Aux approches du matin, la femme vint s'écrouler à la porte de la maison où se trouvait son mari. Elle y resta jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin venu, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son voyage. Quand il vit cette femme, son épouse de second rang affalée à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil, il dit « Lève-toi et partons ». Mais il n'y eut pas de réponse. Alors le mari la chargea sur l'un de ses ânes et se mit en route pour rentrer chez lui. Elle était morte. La suite du texte est tout aussi une boucherie. Je ne vais pas vous lire la suite, mais elle va être découpée en morceaux. Vous voyez que la Bible ne mâche pas ses mots pour parler de sexualité. Quand c'est bon, elle en parle. Quand c'est pas bon, elle en parle aussi. Il y a donc une bonne et une mauvaise façon d'utiliser la sexualité qui a été créée bonne au départ. Alors j'aimerais maintenant prendre le temps de parler de comment vivre une sexualité épanouie. Utiliser sa sexualité, c'est d'abord réaliser que l'autre n'est pas un objet à mon service. En matière de sexualité, les hommes et les femmes ne fonctionnent absolument pas de la même manière. Pour les hommes, la sexualité est un besoin. Il vit une tension, et une tension que cet homme doit gérer. Et si l'homme ne la gère pas, de l'agressivité va naître. L'acte sexuel est une des réponses, pas la seule, de loin pas, une des réponses pour l'homme. Chez l'homme, l'acte sexuel est comme un pic. Ça part vite, ça s'arrête vite. Son désir est très vite éveillé, surtout par la vue ou par l'imagination. Il est très vite satisfait, il a très vite fini. Comme une flèche, il va droit au but. On pourrait comparer son expérience sexuelle à un feu d'herbe bien sèche, qui est très vite allumé par une étincelle, mais qui s'évanouit très vite. D'ailleurs, l'homme va très vite pour tout. Il séquence tout. Ça veut dire qu'un homme, il peut ranger la voiture au garage, se disputer avec sa femme, critiquer son repas, et deux secondes plus tard, vouloir faire l'amour. Il séquence. Et après l'amour, il peut faire les comptes. Pour la femme, c'est très différent. Très très différent. Elle a besoin de temps. Parce que la femme, elle ne séquence pas, elle vit une histoire d'amour. La relation sexuelle peut faire partie de cette histoire d'amour. Mais les actes sexuels isolés n'ont pas de valeur pour elle, très peu. Sa sexualité est liée à l'affectivité, à la sensibilité, elle est beaucoup plus stimulée par un film romantique que par un film érotique. Si l'homme est un pic, la femme est un plateau qui monte doucement, qui s'étend longtemps et qui descend doucement. Elle vit une atmosphère d'amour. Son expérience sexuelle pourrait se comparer à un feu de charbon de bois, long à allumer, mais qui, même lorsque les flammes sont éteintes, continue encore longtemps à se consumer dans les braises. L'homme, s'il veut lui donner du plaisir, va devoir prendre conscience de cette réalité. Parce que la femme ne va pas se contenter d'un feu de paille. Elle a besoin de temps. Le problème, voyez-vous, c'est que jusque dans les années 70 et pendant 4000 ans, on a cru que la sexualité, c'était uniquement celle de l'homme. Et la femme devait se plier à la sexualité qu'en donnait l'homme. On ne savait pas, et on ne voulait surtout pas savoir, que les femmes avaient aussi une sexualité. Aujourd'hui, on l'a découvert. Et beaucoup d'hommes sont en difficulté. Parce que les femmes savent ce qu'elles veulent aujourd'hui. Nietzsche disait à l'époque, « L'homme se fait une image de la femme, et la femme doit se former selon cette image. » Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Et heureusement. L'homme était la norme, la femme la différence, et elle devait se comporter, conformer à la norme. Malheureusement, des églises ont enseigné cela pendant très longtemps. La femme n'avait rien à dire. Elle était soumise dans cette idée. Or, on ne peut jamais vivre de rapport sexuel satisfaisant en couple avec seulement la sexualité de l'homme. Certains hommes citent le texte « Ne vous privez pas l'un de l'autre » et vont chez leur femme, tu vois, j'ai envie, donc c'est maintenant. C'est le texte des machos par excellence, hein, qui disent à leur femme, tu vois, t'as pas le droit de te refuser à moi. Et puis ils ont un verset annexe au cas où, femme, soyez soumise à votre mari. Comme ça, chose entérinée, conclusion terminée, tu es à ma disposition, tu es mon objet de plaisir. Vous voyez que tout d'un coup, on n'en est plus du tout dans un rapport amoureux. Hein. La sexualité d'un couple qui fonctionne de cette manière ne sera pas épanouissante. Parce que l'un des deux disparaît dans ce couple. Il est un objet pour l'autre. Et l'autre ne tient absolument pas compte ni de ses désirs ni de ses envies. Vivre une sexualité épanouissante veut dire ne pas exploiter l'autre. C'est important de respecter particulièrement ce lieu de l'intimité. Et la Bible insiste là-dessus. Les IRM ont montré que l'activité sexuelle chez les femmes mobilise les zones liées à la peur. C'est-à-dire que quand le mari va vers sa femme et dit « J'ai envie de faire l'amour, chérie », tous les voyants de la peur s'allument chez la femme. Et donc, bien, il va falloir que toutes les zones soient éteintes avant que la femme puisse avoir du plaisir. Alors que pour l'homme, c'est l'inverse. Quand il a envie de faire l'amour, le désir est tel que tous les voyants s'éteignent. Ah oui. Du coup, juste au passage, c'est donc aussi une des raisons pourquoi on dit aux femmes de demander le préservatif. Ben oui, l'homme, il n'a pas peur. Dans le cadre de l'usage de la sexualité, il est donc important et nécessaire de se respecter soi-même et de respecter l'autre. 1 Pierre 3, versets 7 à 8. Vous, de même, Marie, menez la vie commune avec compréhension, en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme, puisque avec vous elle hérite la grâce de la vie, pour que rien ne vous fasse obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Si on regarde d'abord le verset 7, vous voyez bien qu'on est loin du « tu dois faire ce que je dis parce que c'est moi qui le dis ». Honorez-vous mutuellement. Respectez l'autre. Considérez-la non pas comme un objet, mais comme un sujet. D'ailleurs, si on regardait le verset 8, alors qu'il ne parle pas spécifiquement du couple, mais aussi, on a quelques conseils. Hein. La douceur. Soyez en parfait accord, sensible, plein d'affection, tendre bienveillance, humilité. Dans ce cadre-là, on peut vivre une sexualité épanouissante à deux. L'homme qui prend son plaisir en 22 secondes chrono est d'abord un égoïste notoire. Les hommes devraient apprendre que la réussite de la sexualité passe par le plaisir réciproque. Une sexualité mal utilisée engendre d'énormes difficultés à des niveaux très variés. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que nous sommes confrontés à de nouvelles formes de sexualité. Sur Internet, la pornographie est très facile d'accès. 95% du web, la pornographie. Bien des hommes trompent leur conjoint avec leur PC ou leur télévision. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Alors j'aimerais quand même poser une question, parce qu'on a beaucoup parlé du couple, mais comment gérer sa sexualité quand on est seul, quand on est divorcé, quand on est veuf, quand on est séparé ou quand on est célibataire? C'est une vraie question. Je crois qu'il est important d'envisager une réparation dans ce domaine du célibat. Mais jamais en mettant la sexualité au-dessus de tout le reste. Je m'explique. Si on couche à gauche ou à droite en se disant « je vais bien voir », c'est destructeur parce qu'il n'y a pas de sécurité. À nouveau. La majorité des gens trouvent très difficile ou plus difficile de vivre seul qu'en couple. On sait par exemple que le taux de suicide est plus élevé chez les personnes vivant seules et que les gens mariés vivent plus longtemps et, d'après des sondages, plus heureux. La solitude fait tellement peur que certains préfèrent vivre mal et en souffrance leur couple plutôt que de quitter leur partenaire. Pourtant, vivre seul, c'est ni bien ni pas bien. C'est seulement une situation précise, comme la vie à deux. De même qu'avoir un partenaire, c'est pas forcément synonyme de bonheur, être seul n'est pas forcément synonyme de malheur. Le bonheur n'a rien à voir avec le statut civil. Nous croyons à tort que sans partenaire, nous ne sommes pas des personnes à part entière, mais des demi-personnes. Et ça, c'est une fausse idée. C'est une idée absolument fausse. Au passage, ça veut dire qu'on peut inviter un célibataire à table un midi sans se dire « mince, qui je pourrais inviter avec ?» Le célibataire existe pour lui-même. Il n'est pas une demi-personne. Nous partons, quand nous sommes parfois célibataires, à la recherche de l'âme sœur, hein, ou le prince charmant, ou la princesse charmante. Mais cette recherche est souvent un signe de dépendance affective. Alors on aura l'occasion, dans un prochain sujet tabou, de parler du célibat. Je ne veux pas trop parler de ça aujourd'hui. Mais il y a des célibataires qui sont heureux, pleinement heureux. Pourquoi? Certainement parce qu'ils ont accepté le fait que vivre seul, c'est pas un malheur. Et ils ont trouvé des solutions pour pouvoir vivre épanoui, avec une sexualité épanouie, sans rapport sexuel. C'est possible. John Stott a écrit un petit livre sur son célibat. Il le vivait très bien et il donne des pistes très intéressantes. Alors, j'aimerais quand même parler de sexualité, puisque c'est le thème de ce message, j'aimerais pas en faire 15 non plus des messages sur ce thème-là. J'aimerais m'arrêter sur la masturbation et l'auto-érotisme, quelques instants. Il faut savoir que la plupart des petits-enfants se masturbent quand ils sont petits. Ça n'a pas un côté pervers, c'est la découverte du corps, tout simplement. Entre 15 et 19 mois, ils se masturbent en public, touchant leur organe génital, surtout les garçons, puisqu'ils ont quelque chose qui est en dehors de leur corps. Les filles, c'est plus compliqué. Mais ça n'a rien de pervers. Et en général, ces activités manipulatoires s'arrêtent ensuite. Chez l'adulte, c'est la poursuite, la continuation de la masturbation qui pose problème. Notamment quand elle devient compulsive. Ça veut dire quand la personne n'arrive plus à maîtriser ses envies sexuelles. Alors ça devient toxique pour la personne elle-même. L'activité masturbatoire compulsive, hein, c'est le nom officiel dans les thérapies, c'est un signe de mal-être ou d'angoisse. Et peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont cette difficulté. Posez-vous la question, dans quel état d'esprit je suis à ce moment-là? Très souvent, il y a une angoisse ou une crainte qui est liée à la pratique masturbatoire. Ça peut aussi être la timidité, les complexes de solitude, un repli sur soi, question d'insécurité, manque de confiance en soi, de mésestime de soi, parfois de névrose. Mais toute cette pratique ne conduira jamais à un bon usage de la sexualité. Alors la Bible ne parle pas de masturbation, soyons clairs. Vous ne trouverez aucun verset sur la masturbation dans la Bible. Il y a un passage dans la Genèse avec Onan, qui a donné onanisme, hein, mais ce passage-là ne parle pas de masturbation. parle d'un homme qui a arrêté un rapport sexuel pour laisser tomber la semence à côté, pour ne pas donner d'enfant à sa belle-sœur. Donc ce n'est pas la masturbation. Le problème de la masturbation, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est qu'il est associé souvent à de la convoitise, avec la pornographie notamment. Et la pornographie valorise le voyeurisme et la convoitise. Or, la convoitise ou le voyeurisme, c'est un poison terrible, qui détruit le célibataire, mais qui détruit aussi des couples. J'ai avec moi toute une série de livres que je vous montrerai tout à l'heure, pour ceux qui voudraient aller plus loin. Un livre qui s'appelle « Obsession ». C'est une femme qui raconte, dans une biographie bien fouillée, comment la pornographie a détruit son couple et sa famille. L'homme voyait beaucoup de films pornographiques, et non seulement à force de pratiques pornographiques, il a été tout doucement orienté vers des prostituées, mais même avant ça, à cause de la pornographie, cet homme avait une image, une façon d'envisager les relations sexuelles avec sa femme, que sa femme ne pouvait pas lui offrir. Parce que dans le matériel pornographique, tout est truqué, tout est triché. Et le message qui est véhiculé derrière, c'est « Fais du mal à ta femme, elle va aimer. » Avec tout ce qu'on vient de dire, vous voyez bien que ce n'est pas possible. Et que c'est un vrai mensonge. Et vous imaginez bien que dans un couple, tous les ravages que ça peut faire. Fais-lui du mal, elle aime ça. Non, elle n'aime pas ça. Et si tu aimes ta femme, tu la respectes. Tu prends soin d'elle. Le message qui est aussi dans ces supports pornographiques, change le regard. Le regard qu'on a envers l'autre, envers tous les autres du sexe opposé d'ailleurs. Je suis effaré de voir dans la rue, quand je me promène, le nombre de garçons qui, lorsqu'ils voient une fille passer, tournent la tête pour regarder les fesses. C'est incroyable. C'est à cause de la pornographie. Parce que l'œil est habitué à regarder des parties de l'autre. Et voilà comment des regards changent. Et voilà comment dans le monde professionnel, dans le monde en général, dans nos relations sociales, lorsqu'on est dépendant de la pornographie, toutes nos relations deviennent très compliquées avec le sexe opposé. L'autre devient un objet. D'ailleurs, pour la plupart des supports pornographiques, les gens qui sont utilisés sont des objets, des esclaves. Aujourd'hui, on parle du trafic des blanches. Oui, l'esclavage, ça existe encore aujourd'hui. On prend des jeunes filles entre 12 et 20 ans, on les kidnappe à leur famille, on les enferme dans des maisons et on les filme. Et après, on poste sur Internet. Entre 65 et 80% du web, ce sont des esclaves sexuels qui fournissent le matériel. En participant à la pornographie, on alimente ce réseau. On alimente le kidnapping de jeunes filles. Enfin, la masturbation pose de vraies difficultés. J'aimerais quand même en parler rapidement. Difficulté parce qu'il y a une habitude prise du plaisir solitaire. On n'a donc plus envie d'aller vers l'autre. On s'épanouit soi-même. Donc plus du tout besoin d'aller vers l'autre. Plus du tout envie de construire une nouvelle relation. Et même si on arrivait à la construire, tout d'un coup, il faudrait découvrir de nouvelles sensations. Et souvent, ces relations vont à l'échec. La masturbation empêche souvent qu'une nouvelle relation puisse se construire. La recherche du plaisir solitaire peut aussi couper du reste de la vie. On est dépendant à l'adrénaline. Et à ce moment-là, on rentre dans une forme de dépendance au plaisir sexuel. Ça prive la personne de tout autre investissement, que ce soit scolaire, professionnel, relationnel, dans les loisirs. Et ça peut compromettre un avenir et même un présent. Et il y a des personnes qui, à cause de cette dépendance à la pornographie, ne peuvent plus vivre correctement leur vie de tous les jours. Enfin, l'habitude qui est prise de s'intéresser qu'à son propre sexe, eh bien, si c'est découvert trop tôt, eh bien, ça peut orienter un jeune vers la masturbation collective entre personnes du même sexe et conduire vers l'homosexualité. Alors, quels que soient les défis sexuels que nous rencontrons les uns les autres dans notre situation, que ce soit en couple, que ce soit en tant que solo, la question qu'il faut se poser de nouveau, c'est est-ce que je maîtrise ma sexualité ou est-ce que c'est elle qui me maîtrise? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Je dis que Christ est le Seigneur de ma vie. Est-il le Seigneur de mes organes sexuels et plus largement de ma sexualité en entier? Est-ce que j'honore Dieu dans mon couple, dans l'intimité que je vis avec mon conjoint? Et ne vous y trompez pas, Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de nos couples. Honorer Dieu, c'est aussi honorer mon conjoint en le respectant et ne pas en le traitant comme un objet. Est-ce que je l'honore seul dans mon intimité? Pour moi, il n'est pas question de juger qui que ce soit. Mais je crois que la Bible donne un enseignement clair sur la sexualité. Et j'espère avoir pu ouvrir une réflexion à chacun d'entre nous sur ce thème. Et j'aimerais vous proposer de pouvoir prolonger cette réflexion avec différents ouvrages qui m'ont servi pour ce message. Le premier, c'est un livre de Roger Eckermann, qui est un sexologue chrétien, bien connu dans le monde évangélique, qui a écrit « Tabou ». Vous avez ensuite un livre qui s'appelle « La sexualité dans le couple ». « Obsession », le livre dont je vous ai parlé, de cet homme qui a détruit sa famille à cause de la pornographie. Et j'ai aussi trois livres par rapport aux abus sexuels, que je vous laisse aussi à votre disposition si vous le souhaitez. Et j'aimerais juste conclure avec quelques versets de 1 Corinthiens. Et après, on priera ensemble. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent « les deux deviendront comme une seule personne ». Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit est en vous, et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Seigneur, merci parce que tous les sujets qui nous concernent, tu en parles. Merci parce que dans la Bible, il n'y a pas de sujet tabou. Merci parce que tu as prévu pour nous un cadre où nous pouvons être en sécurité. Un cadre dans lequel nous pouvons prendre du plaisir et vivre du plaisir. Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions redécouvrir tout à nouveau cette merveilleuse protection que tu offres. Merci parce que tu es notre abri. Merci parce que tu veux notre bien. Tu veux que nous puissions nous épanouir, que ce soit dans nos couples ou que ce soit en tant que célibataire. Merci parce que tu fais route avec chacun d'entre nous et que tu nous as donné ton esprit pour nous aider à maîtriser nos envies, à faire de bons choix, pour que nous puissions te glorifier jour après jour. Amen.